messieurs. Bienvenue pour cette dernière conférence avant les vacances de fin d'année. Alors, nous allons donc aujourd'hui, si vous voulez bien commencer, nous allons entrer dans l'inconnu, hein, après avoir fait l'historiographie, avoir répertorié les problèmes que l'histoire de nos études pose depuis son existence. Nous allons aujourd'hui procéder à certaines vérifications. Nous allons vérifier d'abord la présence, l'expression d'un éventuel rituel dans le cursus d'une récitation gathique, puisque les avis divergents ont été radicaux à cet égard. Donc, entre 1905 et 1959, entre la traduction de Bartholomé et celle de Humbart, le rituel est considéré comme absent des gatha. Pourtant, un certain nombre de mots pourraient s'y référer. Mais en fonction de quoi le rituel va-t-il être considéré comme inexistant? Eh bien, simplement parce que le vocabulaire en question ou est méconnu, ou est expliqué autrement, ou fait l'objet d'une interprétation particulière. Je vais donner quelques exemples pour que cela vous soit clair. Le premier exemple, les auditeurs du séminaire le connaissent. On trouve le mot « ija » dans les gatha, « ija ». Bartholomé recense le mot, lui attribue le sens de « zèle » et déclare son étymologie inconnue. Or, Humbart montre avec une certaine évidence qu'il s'agit en réalité de l'équivalent avestique du sanskrit védique « ida », qui est une forme de libation, soit de lait, soit de graisse. Vous savez que les différents états du beurre sont utilisés pour les libations d'une manière assez complexe dans les hymnes védiques et que nous ne pouvons pas toujours identifier. Il y a donc un certain nombre de mots qui désignent la libation selon le type de beurre que l'on emploie. Donc, Ida est un de ces mots-là. Donc, voici un mot rituel restauré, hein, simplement par l'étymologie. Un autre terme fréquent dans les gathas est un mot Ada. C'est aussi un féminin, Ada. Bartholomé déclare aussi l'origine inconnue et il va le traduire par Vergeltung beim Schlussgericht, c'est-à-dire la rétribution fixée pour les individus lors du jugement final. C'est un pur postulat sémantique, puisque le mot s'explique très facilement par le préverbe « a », le verbe « da », posé, placé, qui est attesté comme tel avec des formes verbales et qui signifie « présenter les offrandes ».« Présenter les offrandes ». Chez Humbart, cela apparaîtra comme tel, la présentation des offrandes. Un autre mot fréquent dans les gathas, varma. Varma. Inidentifiable, celui-là, effectivement. Il est extrêmement difficile de lui trouver une étymologie convaincante. Bartholomé le traduira par prière, gebet. Le mot prière est un terme rituel, bien entendu. Mais vous voyez que c'est un terme rituel atténué. Hein. Prière, ça peut se réciter n'importe quand. Hein. Ce n'est pas la partie nécessaire d'une cérémonie. Ça ne suppose pas une cérémonie. Bon, c'est aussi un postulat sémantique. Je pense, il existe de ce mot une très vieille interprétation, qui remonte à Jackson, et que je trouve toujours extrêmement convaincante, quoique Bartholomé n'en ait pas voulu, c'est y voir un dérivé d'une racine vaf, qui signifie en réalité tisser, hein, tisser, parce que le verbe tisser s'applique métaphoriquement à la composition des textes, comme d'ailleurs le mot français texte lui-même, hein, qui est un dérivé bien sûr du verbe tisser. Donc le texte, on peut le traduire par chant, le vafma, une sorte de texte qui est chanté, car la racine « vaf » signifie « chanter », c'est une forme de chant. Or, nous avons plusieurs exemples en avestique, d'une répugnance particulière à laisser en contact deux labiales. F est une labiale, M aussi, et cela provoque en général une dissimulation. Je pense que Jackson avait raison que ce mot varma est la dissimulation de varma. Alors, il y a bien sûr le mot yasna lui-même. Celui-là, il est incontournable. On sait bien, yasna, le sacrifice. Yasna, le sacrifice, équivalent clair du sanskrit védique yajna. Oui, il est incontournable, il est indéniable, mais il est très rare dans le corpus gathique. 5 fois, il apparaît 5 fois. En tant que substantif. Quant au verbe de base, le verbe yaz, sacrifier, il est attesté 2 fois, mais 2 fois avec une portée négative. C'est sacrifié d'une certaine manière en rapport avec les daïvas. Donc il reste 2 exemples qui ne sont pas négatifs. Donc la réhabilitation, la restauration du vocabulaire rituel commence en 1959 avec le travail de Humbart. Le travail est relativement inabouti, il est clair, ce n'est pas une critique de le dire, mais c'est l'évidence. Quand on observe le travail, quand on prend connaissance d'une manière un peu précise du travail de Humbart, que Humbart est surtout préoccupé par la grammaire, par la restauration de la grammaire. L'étymologie en fait bien sûr partie. C'est toute cette partie phonétique et morphologique que Humbart restaure dans la comparaison entre les textes de l'iranien ancien et ceux du sanskrit védique. Son analyse du fond des gathas n'est pas aussi fouillée. Et il est clair que Humbart, il est plus complexe maintenant, mais le jeune Helmut Humbart est fortement sous l'influence d'un indianiste qui s'appelle Paul Thiem, un ami personnel d'ailleurs de Karl Hoffmann, ce qui explique la proximité conceptuelle entre les travaux de Paul Thiem et la conception que Humbart se fait des gathas. Cette conception est celle du sacrifice conçu sur le modèle d'une réception d'hospitalité. C'est un rite d'hospitalité. Le sacrifiant reçoit les dieux, il leur fait des cadeaux, parce qu'on accueille l'hôte, et les dieux font la réciproque. Ils offrent des cadeaux aux sacrifiants. Ça paraît très simple, c'est le mécanisme bien connu sous le nom de do ou de des, je donne pour que tu donnes, oui, mais d'une façon un peu plus complexe, puisque ce do ou de des se produit dans le cadre d'un rite d'hospitalité. Le tout premier article de Helmut Humbart montre clairement qu'il a cette conception. C'est le premier article de la nouvelle manière, n'est-ce pas, qui exprime la nouvelle manière de considérer les gathas en 1952. Gast und Gabe by Zarathustra, l'hôte et le don chez Zoroastre. C'est le tout premier article de Humbart sur la matière gathique. La restauration du rituel dans le corpus gathique va trouver son aboutissement, relativement modeste, dans les années 70. C'est en 1970 même que Mary Boyce fera la remarque que le sacrifice sanglant que Bartholomé exclut des gathas, que le sacrifice sanglant était une constante du rituel mazdéen, depuis l'Avesta récent, où il est clairement mentionné, quoique très rarement, mais de manière incontestable, et dans la littérature moyen-perse de commentaires. Elle y voit donc une constance du mazdéisme jusqu'à nos jours, car il arrive aujourd'hui encore aux zoroastriens contemporains de pratiquer un sacrifice sanglant de petite envergure, il est vrai, qui n'est pas le seul, qui est relativement rare, mais qui est pratiqué sans qu'il fasse l'objet de la moindre réprobation. Donc, une constante du rituel mazdéen. En 1975, Helmut Humbart lui-même s'est engagé dans cette voie et il a retrouvé dans l'Avesta récent le nom que les gens de l'Avesta récent donnaient à l'animal sacrificiel, à la vache sacrifié. c'est Gao. Je le mets au nominatif parce que le moyen perse va l'adopter sous cette forme-là, Gauch, la vache, Koudor. La vache généreuse. Sous le caractère peu significatif des mots, hein, nous trouvons là la désignation lexicale tout à fait précise de l'animal que l'on va ou que l'on a immolé. Vache généreuse. En moyen perse, gauche ou dak, c'est l'étymologie même de ce terme. Seulement, vous le voyez, que ce soit Boys ou Humbar, le sacrifice sanglant n'a pu être pisté que dans l'Avesta récent. Il n'est pas, Gauch ou Dan est un mot avestique récent. On n'en trouvera pas l'attestation dans les Gathas. Les Gathas ne semblent pas faire mention nulle part ou que ce soit d'un sacrifice sanglant. La manière d'envisager le problème va être modifiée de façon radicale en 1985 par la découverte du caractère ancien du Yasna Habtankaiti. Car le Yasna Habtankaiti est évidemment sacrificiel. Si l'on observe les deux textes d'une manière relativement superficielle, on s'aperçoit très vite que le Yasna Habtankaiti observe une progression qui est celle d'un cursus liturgique. C'est visible. Alors que c'est invisible pour les Gathas. Il y a donc, du point de vue de l'apparence, un contraste très fort entre les deux textes vieilles avestiques. Et c'est ce contraste qui sera exploité dans la suite par Almuth Hintze, surtout, dans son article de 2002 que j'ai mentionné, puis dans sa nouvelle édition du Yasna Habtankaiti en 2007, et qui trouve un écho, tout au moins, peut-être pas chronologique, mais un écho conceptuel, dans les quatre leçons que Antonio Panaino était venu faire ici en 2002 et qui sont parues dans une publication de l'Université de Vienne en 2004. La position de Hintze est la suivante, c'est que le corpus vieil avestique complet, Gatha plus Yasna Habtankaiti, dont elle a démontré ce qui est évident, hein, qui se présentait pour les auteurs de l'Avesta récent tel qu'il l'est aujourd'hui, représentait un nouveau rituel qui était composé d'hymnes organisés autour d'un texte qui, lui, le Yasna Habtankaiti, représente une véritable liturgie. Le sous-titre du livre de Hintze sur le Yasna Habtankaiti en 2007 montre clairement cette perspective-là, puisqu'il est, sous-titré Zoroastrian Liturgy, une liturgie zoroastrienne. Et je vous le rappelle, Hintze y voyait la volonté de l'auteur des deux textes, Zarathoustra lui-même, de laisser à ses disciples un nouveau rituel qui se distinguait de l'ancien toutefois, en ce sens que la cérémonie qu'il impliquait ne comportait aucune manipulation, aucune manipulation observable, donc certainement pas de sacrifice sanglant. La position de Panaino est à peu près celle-là, comme je vous le disais, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais l'idée qu'il a défendue était que le corpus vieil avestique était l'expression d'un sacrifice intériorisé, où c'est la méditation et la rumination des textes qui incarnent l'acte sacrificiel par excellence. Bon, autant vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec cette représentation des choses. Mais pour commencer, et avant d'observer quels sont les éléments de cursus sacrificiel que l'on observe dans les Gathas, je vais vous exposer celle du Yasna Habtankaiti, parce qu'elle est claire. Et on voit comment les choses fonctionnent. Le Yasna Habtankaiti, son titre lui-même le définit ainsi, c'est un sacrifice en sept chapitres. Si vous voulez, en sept parties. Les deux premières parties, Yasna 35 et 36, sont deux chapitres préliminaires. Le Yasna 35, souvenez-vous de la triade du comportement, hein, pensée, parole, action, est centré sur le troisième niveau du comportement, l'acte. C'est une célébration de l'acte. Étonnant pour un texte qui ne supposerait aucune manipulation. Or, c'est une célébration de l'acte, qui est l'acte, ce n'est pas dit, bien sûr. Bon, deuxième chapitre de préambule, le Yasna 36, excusez-moi, nous en avons beaucoup parlé, y compris, je crois, il y a 2 ans. Il est consacré au feu rituel à Tar, et ce texte équivaut, comme Narten l'a montré, ce chapitre, avant le sacrifice, a procédé à la transsubstantiation du feu, qui, d'un simple feu qui vient d'être allumé, devient, après un certain nombre d'affirmations, la forme visible des divinités à qui le sacrifice est offert. Bon, alors, les 3 chapitres centraux, 37, 38, 39, ils méritent le titre de Yasna, à proprement parler. C'est eux qui valent au texte le nom de Yasna, de sacrifice. Mais c'est purement verbal. Hein. Un Yasna, c'est un acte de parole. C'est un acte de parole pour les théologiens avestiques. C'est un acte de parole, c'est réciter un texte où l'on répète Yazamaïdé. Nous sacrifions. Nous sacrifions. Et nous sacrifions à un tel, à un tel, à un tel. Et pendant 3 chapitres, avec Ahura Mazda en tête, on va énumérer un certain nombre d'entités divines. Un certain nombre d'entités divines. Et puis, viennent 2 chapitres conclusifs, 40 et 41, dont le genre rhétorique ne transparaît pas dans le titre Yasna Haptankaiti, il aurait fallu le faire plus long, mais le texte même du Yasna Haptankaiti, dans le Yasna 37.1, donne son titre rhétorique, donne la définition de son genre rhétorique, c'est un varma, c'est le terme que nous venons de commenter. Et si l'on se fie, si l'on se laisse emporter par l'apparence rhétorique des 2 derniers chapitres, on voit qu'il s'agit d'un mélange d'éloges, où l'on donne les qualités de la divinité, et de demandes que l'on formule à la divinité. Les deux sont enchevêtrés, tantôt une demande, tantôt un éloge. Et il semble que ce soit cela que l'on peut qualifier de varma. Voilà donc la structure liturgique du Yasna Haptankaiti. Alors, comment les choses se présentent-elles dans les gathas? Que pouvons-nous faire? Nous allons partir à la chasse, si vous permettez, au terme qui désigne, en principe, un acte rituel dans les gathas. Je l'ai fait. Ça réserve une petite surprise. Ça réserve une petite surprise parce que j'étais heureux de le constater. Ça n'apparaît pas dans la mesure où l'on procède depuis Bartholomée, depuis Hauck lui-même, jusqu'aux toutes dernières traductions des gathas. C'est peut-être, je crois qu'il y en a une norvégienne que je ne connais pas bien. C'est pas Chervu, c'est quelqu'un d'autre. Qui a suivi l'interprétation de Pirard et de moi-même, mais tous nous avons fait la même chose. Nous avons commencé par la première strophe, continuer, essayer de comprendre, faire une traduction, faire un commentaire, et terminer par la dernière strophe. Mais si l'on procède autrement, si l'on procède de façon thématique, sans souci de lire le texte à partir de la première lettre jusqu'à la dernière, eh bien, on voit apparaître, j'étais persuadé qu'on verrait apparaître certaines structures. Or, c'est le cas. Tout de suite, attention, il y a 5 gathas, je vous le rappelle. On ne peut que laisser de côté, parce que cette démarche n'est pas possible, ou tout au moins, elle n'est pas tout à fait significative avec les 2 dernières qui sont... je vous le disais, monohatiques, c'est-à-dire qui ne comportent qu'un chapitre. Elles sont trop brèves. Ce sont des textes condensés, peut-être, par l'auteur lui-même, ou bien tronqués par les arrangeurs. Je crois plutôt qu'ils sont condensés. Je vous donnerai une raison tout de suite, aujourd'hui même, de le penser. Mais les trois gathas les plus longues, composées de plusieurs chapitres, 2 d'entre elles, la première, la gatha Hunavaiti, 7 chapitres, elle aussi. Et la gatha Spenta Mainyu, la 3e, laisse apercevoir le même phénomène. C'est que le vocabulaire désignant des manipulations ou des récitations rituelles se condense progressivement à partir de la seconde moitié de l'avant-dernier chapitre. à partir de la seconde moitié de l'avant-dernier chapitre. Et la condensation devient de plus en plus dense dans le dernier chapitre, c'est-à-dire pour la première gatha, le yasna 34. Le mouvement commence dans le yasna 33 et il s'accentue à la fin du texte, le yasna 34. On voit apparaître le même phénomène dans la troisième gatha, dans le yasna 49, et puis une forte présence du vocabulaire rituel dans le yasna 50. Ce sont deux phénomènes qu'il nous faudra interpréter, mais je vais vous en donner, je vais vous montrer en quoi cela consiste, si vous voulez bien, Samra, à partir donc du yasna 33. Je fais un bref commentaire. Cela pour vous dire, quand même, les petits présupposés méthodologiques que cela implique. Je ne veux travailler qu'à coup sûr, donc pas d'hypothèse, seulement les termes les plus évidents et leur présence. Je ne veux pas non plus faire intervenir des faits d'interprétation. Il faut simplement noter la présence des mots, noter la présence du vocabulaire rituel. Les quatre premières strophes, peut-être les cinq, du Yasna 33, se trouvent à la traîne du Yasna 32, c'est-à-dire la déprécation des Daivas. Le mouvement rituel commence peut-être avec la strophe 5. Il n'y a rien de particulièrement rituel a priori dans la strophe 5, mais je vous le signale tout de même parce que le fait est significatif. Quelqu'un qui dit « je », donc le récitant, si vous voulez, dit dans cette strophe 5, Yasna 33, 5, qu'il a atteint, apano, premier mot du deuxième vers. Et puis alors tout le deuxième vers, il a atteint les chemins directs. Il a atteint les chemins directs qui viennent d'Acha et qui conduisent là où Mazda habite. Là où Mazda habite. Bon, rien peut-être de précisément rituel, mais laissons se développer le mouvement. Alors, l'astrophe 6. L'astrophe 6 contient un mot intéressant, un apax pour le vocabulaire gathique, Zaotar. Rappelons-nous qui est le Zaotar. C'est le patron du sacrifice. On a beaucoup écrit. On a cru que, puisque Zarathoustra est censé être le jeu des gathas, ça a traîné dans des tas de livres, ça doit encore y traîner. C'est pas on a vu dans ce Zaotar mentionné ici l'information qu'il était prêtre. Qu'il était prêtre, dans tous les livres le mentionne encore. Mais c'est méconnaître ce qu'est en réalité un Zaotar. D'abord, il n'est pas du tout sûr qu'il y ait une forme verbale de première personne dans cette strophe. Donc, si Zaotar est bien un nominatif singulier, on ne sait pas très bien si ça se rapporte à une troisième personne ou à une première. C'est une strophe malheureusement presque totalement incompréhensible. Alors, le Zaotar, ce n'est pas le prêtre en tant que représentant d'une classe ou d'une caste sociale. Ce n'est pas le rang social du prêtre qui est envisagé par le mot Zaotar. C'est le prêtre dans son rôle sacrificiel. Vous savez, on a souvent vu cela pour l'Avesta récent, il y a 8 officiants, et les 8 officiants sont investis. Alors, l'investiture consiste à dire, toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Telle manipulation. Il y en a 8 dans l'Avesta récent. Et le patron, c'est le Zaotar. Mais ce sont des rôles ponctuels. Hein ? Ils durent. C'est pour la durée d'un sacrifice. Au sacrifice suivant, ce sera peut-être un autre prêtre celui qui fait grandir le feu, ou celui qui manie les pylons à pressurer le haouma, qui deviendra Zaotar, et la valse des rôles peut s'installer. Donc, ça ne désigne pas un prêtre comme tel, un prêtre par son rang social. C'est une fonction sacrificielle que fait un prêtre. Eh bien, c'est la seule évidente dans les gathas qui nous soit donnée. Nous y reviendrons à cela, parce qu'il faudrait quand même essayer de l'établir. Comment, à quoi ressemble le clergé gathique? Nous ne savons pas. À quoi ressemble-t-il? Alors, nous avons peut-être quelques exemples. Je ferai des hypothèses, parce que je crois qu'on peut essayer de préciser les choses. n'est-ce pas? Mais une chose est certaine, hein, une chose est certaine, le texte des Gathas ne définit jamais le prêtre comme le membre d'une caste sociale. Ce ne sont pas, c'est comme dans le Rig Veda. Hein, le Rig Veda, sinon dans les tout derniers hymnes, chronologiquement les derniers du Rig Veda, il n'y a pas de Brahman. Il n'y a pas de Brahman. Donc le terme qui renvoie au statut social de prêtre est absent du Rig Veda, et il semble bien qu'il soit absent des Gathas également. Ce qui est d'ailleurs, je vous ferai remarquer, indépendamment de toute discussion longue et linguistique, nous nous trouvons devant un état beaucoup plus archaïque des choses. Nous trouvons devant la vieille situation indo-iranienne avant la fixation des castes indiennes et avant l'apparition d'une structure, effectivement, de sodalité, de prêtrise dans l'Iran mazdéen. Voilà, je voulais commenter ce terme, mais nous avons ici la mention, la seule qui donne clairement, n'est-ce pas, la seule qui donne clairement, qui désigne clairement un prêtre en fonction sacrificielle, le hotar. Je vous rappelle que hotar, ça veut dire celui qui verse, celui qui fait des libations. Alors, nous allons continuer. La septième strophe mentionne, mais aussi dans un contexte très difficile, un autre personnage qui est le Maghavan. Maghavan. Or, Maghavan, dans l'équivalent védique, Maghavan, c'est le commanditaire de la cérémonie. C'est le commanditaire de la cérémonie. C'est-à-dire non pas le prêtre officiant, celui qui fait les opérations techniques du rituel, le spécialiste du rite, mais l'homme d'une certaine richesse ou d'une certaine autorité sociale qui prend la responsabilité d'organiser un sacrifice et de le payer. Et de le payer. Hein, payer les offrandes, qui coûtent de l'argent, une vache, c'est cher, mais aussi de payer les prêtres qui officient. Le mot Maghavan est attesté deux fois dans les Gathas, et Pirard et moi avons eu, ce qui est probablement la mauvaise idée, de lui donner un sens péjoratif, parce que les contextes nous paraissaient impliquer un sens péjoratif. Mais c'est aussi une disposition qu'il est prématuré, une discussion qu'il est prématuré d'avoir. Alors le dernier vers est extrêmement intéressant. Le dernier vers de ce Yasna 37, c'est Avishnan Atarehuntu, Numakwaitish, Chitran Ratayo, que public, manifeste, soit entre nous les clairs, les lumineux cadeaux que l'on fait en forme d'hommage, de Mahwaitish. Si nous avons deux termes, très certainement, qui se rapportent à un genre rituel, c'est un dérivé secondaire adjectif, mais du mot Nemar, que l'on verra réapparaître, l'hommage indien Namas, dont un usage fréquent est fait dans les Gathas, et puis Rati, c'est le cadeau, mais le cadeau dispendieux, hein. C'est le cadeau extrêmement coûteux, cadeau très généreux, Rati. Alors ces cadeaux sont clairs, c'est aussi une chose que nous pouvons garder à l'esprit, mais dans l'optique que nous travaillons pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Donc, le genre rituel commence à se préciser. Il se précise encore plus dans la huitième strophe. Il est question des arthas. Les arthas, ce sont les buts d'un sacrifice. C'est l'indien artha. Hein, c'est l'indien artha. Dans le Rig Veda, c'est le but. Donc, le récitant parle des buts pour lesquels il veut entamer un sacrifice. Le mot yasna apparaît pour la première fois. Entamer, c'est shiavai. Je veux mettre en mouvement. En fonction de ce but, je veux mettre en mouvement un yasna, c'est-à-dire un sacrifice pour vous, au Mazda. Et il veut aussi, donc, impulser, mettre en mouvement des paroles, vachor, qui font l'éloge, genre de récitation rituelle tout à fait traditionnelle, qui font l'éloge d'Acha, qui font l'éloge de l'harmonie. Et cela équivaut à constituer, pour les divinités un Drauno. Drauno, c'est aussi la seule attestation que nous avons dans les gathas de ce mot, qui est l'équivalent de l'indien Dravinas. Dravinas. Dravinas, c'est la ration rituelle. C'est la partie de la victime qui est concédée à telle ou telle divinité particulière. C'est la ration de chacun. La ration. Ce mot Drauna réapparaît aussi dans le Homestome. Nous l'avons vu ensemble il y a quelques années. Hein. Alors, voilà donc la précipitation brutale, hein, comme un phénomène de chimie, du vocabulaire rituel à l'intérieur des derniers mouvements, du dernier mouvement de la gatha Hunavaiti. Et puis, il y a deux strophes où plus rien n'est perceptible. Il y a peut-être l'usage là-bas de termes rituels, mais je ne veux pas faire d'hypothèses aventureuses. Je ne relève que les termes évidents. Alors, il nous faut passer tout de suite à la 11e strophe, et on voit apparaître dans la 11e strophe le mot « Ada » que j'ai commenté au début dans mon exposé d'introduction. Donc, la présentation des offrandes, c'est le dernier terme. « Chaque fois, Paiti, lors de la présentation de l'offrande. » « Ada kariachit Paiti, lors de chaque offrande, lors de chaque offrande. Rien à relever dans les deux strophes qui suivent, le mouvement de fait que commencer en prévision de la dernière Haïti. Alors, il faut tout de même relever l'étonnante expression que nous a conservée la dernière strophe du Yasna 33, qui remet en scène Zarathoustra. Ah, c'est général, cela. L'avant-dernière Haïti, de la troisième gatha, elle aussi, avant que la grande strophe, que le grand Haïti ritualiste prenne son départ, Yasna 50, la dernière strophe du Yasna 49 mentionne aussi Zarathoustra, comme s'il était le personnage qui donne le signal du début ritualiste. C'est aussi un phénomène que l'on pourra interpréter, mais laissons-le comme ça, remarquons-le. Mais remarquons aussi l'étrange action qu'il est censé accomplir. Il donne à Mazda, hein, il donne à Mazda, Dadaïti, en cadeau, Rata, c'est un terme, c'est le même, je vous ai donné Raïti, Rati, hein, Raïti, Rata, c'est la même racine, c'est aussi le cadeau dispendieux, le cadeau très très généreux, hein, générosité maximale, eh bien, il fait un cadeau pour Mazda, de l'ouchtana de son propre corps. L'ouchtana, c'est l'âme, une âme mortelle, nous en avons parlé quelques fois, elle disparaît à la mort. L'âme, c'est la force qui fait que votre corps bouge, c'est la mobilité de son corps. Donc il fait cadeau à Mazda de la mobilité de son corps, et c'est une réécriture de cette strophe qui figure en tête des opérations rituelles du Yasna récent, où les prêtres aussi, qui viennent d'être investis de leurs fonctions rituelles de rotard, de bout de feu, de pressureur de soma, eh bien, les prêtres font aussi l'abandon de leur ouchtana. Et ce n'est pas cette strophe qui est citée, c'est cette strophe qui est réécrite, selon une pratique que l'Avesta récent le plus ancien atteste parfois. C'est donc un geste préliminaire à un moment sacrificiel particulier. Mais les auteurs de l'Avesta récent en avaient gardé le souvenir, puisque c'est le même procès, c'est pas qu'ils mettent à l'inauguration du moment rituel. Alors, nous pouvons y aller avec le Yasna 34, la dernière Haïti, si vous voulez bien. Nous allons procéder de la même manière. Hein. Voilà, une deuxième attestation d'Yasna. Hein. Vous voyez, nous avons les deux, je vous disais, quatre attestations d'Yasna. On voit là deux, c'est pas dans cette zone. Les deux autres se trouvent Yasna 49-50, Yasna. La triade du comportement, l'acte, la parole, et puis au lieu de la pensée, on trouve le sacrifice. Donc par l'acte, par la parole, par le sacrifice. C'est tout ce que nous saurons, n'est-ce pas ? Je ne traduis pas tout, je vous le dis. Alors la seconde strophe. Mentionne dans ses derniers mots, avec le vocatif du nom de Mazda, mentionne trois genres liturgiques particuliers, le varma, dont nous avons déjà parlé, le gar et la stut. La stut, c'est l'éloge, hein, vous reconnaissez la racine stut. Donc c'est le chant d'éloge, stut, mais aussi gar, qui est l'équivalent de l'indien gir, c'est un monosyllabe, gir, et c'est un genre aussi de chant rituel, c'est le chant d'accueil, le chant de bienvenue. Donc, trois éléments, trois types de récitation particulières figurent dans le dernier hémistiche, le varma, le chant d'accueil, garobish, et le chant d'éloge, trois termes liturgiques. Il faut relever quelque chose d'assez curieux. L'observation, nous la devons à Helmut Humbach, non pas dans son interprétation de 1959, mais cinq ans plus tard, dans un article paru en 1964 et assez confidentiel dans un volume de mélange offert à un prêtre zoroastrien. Il ne se trouve pas fréquemment dans les bibliothèques européennes. Et c'est que le varma, ce moment rituel particulier, est défini comme pairi gaita. Le varma pairi gaita, c'est le premier mot du dernier vers. Or, le pairi gaita, ça veut dire que la cérémonie désignée comme varma est entourée des gaita, c'est-à-dire des êtres vivants. Mais attention, les gaïtas, les êtres vivants, allons pour finir, les êtres vivants, hein, ce sont aussi bien les animaux que les hommes. Aussi bien les animaux que les hommes. C'est ce qui vit sur la surface de la terre et qui bouge, hein, ce n'est pas les plantes, bien sûr. Non, c'est le, bon, les êtres vivants, animaux et humains. Selon les gathas, du moins, c'est un peu différent dans la Vesta récente. Troisième strophe. Les choses se précisent. On voit réapparaître le mot nemar, l'hommage. Nous donnons en hommage, nemanka, nous donnons en hommage à toi, Aoura, ce qui veut dire Mazda, et à toi, Asha, le Miazda. En tant que Miazda, c'est la seule attestation du mot aussi dans les gathas. C'est l'indien Miyeda. Miyeda. Le Miyeda désigne l'offrande solide par opposition aux offrandes liquides. Ce que le Zaoutar verse, c'est l'offrande liquide, mais le Miazda, c'est l'offrande solide. Vous voyez tout de suite à quoi l'on peut penser, hein, l'offrande solide. C'est la seule attestation du mot. Elle réapparaîtra dans l'Avesta récent. L'on offre aussi le Miazda. On offre aussi le Miazda à Ahura Mazda au début du Yasna, parce qu'on consacre le Miazda. Ce n'est pas encore l'offrande, mais la consécration, c'est laquelle est mentionnée. Yasna 4 en tête. Or, et on lui donne un nom. On lui donne un nom à ce Miazda. Pas ici, c'est pas aussi précis, pas aussi explicite. On va l'appeler vache généreuse. Cette vache immolée que Humbach a été récupérée dans le matériel de l'Avesta récent. Donc le Miazda, et puis on voit réapparaître tout de même, parce qu'il constitue le Miazda, les Gaïtas, tous les êtres vivants. Donc nous t'offrons en hommage, ô Ahura et ô Asha, comme offrande solide, tous les êtres vivants. Nous avons déjà, n'est-ce pas, nous avons déjà commenté ce passage ensemble. Nous l'avons fait pour y voir peut-être l'expression la plus explicite du sacrifice sanglant dans tout le corpus gathique. Nous pourrions être plus provocateurs. Nous pourrions l'être. Est-ce que cela implique des hommes? Ah. Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas vous avouer, je ne peux pas nier la possibilité. Des gaïtas, c'est aussi bien des hommes que des vivants. Et dans la réécriture aussi, l'adaptation que feront de ces textes, le Yasna 58 que nous avons lu ensemble, au lieu de gaïtas, on trouve autre chose. Pasu vira. Bétaïum. Bétaïum. Ce n'est pas exclu. Je ne peux pas. Je ne veux pas faire de provocation en disant cela, je ne l'ai jamais écrit, mais parce que la certitude n'est pas là, mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité. Il y a effectivement un sacrifice humain. Nous ne pouvons pas. Je pense aussi, n'est-ce pas, à l'abandon de Loushtana de son corps par Zarathoustra, bien sûr. Mais je pense que ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a effectivement un sacrifice total, mais peut-être symbolique. Peut-être symbolique, car lorsque le sacrifiant du Yasna abandonne son Ushtana, ben, il est censé mourir, bien sûr. Ben, bien entendu, il ne meurt pas, puisqu'il va sacrifier, et il va ressusciter à la fin du rite. Mais il y a en tout cas mise à mort symbolique des officiants. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, la mention la plus explicite du feu, donc les gathas. Le feu n'intervient jamais dans les gathas dans un cadre aussi parfaitement clair qu'il le fait dans le deuxième chapitre du Yasna Haptankaiti, où l'on voit bien de quoi il est question. Il faut que le feu soit sanctifié, qu'il soit transcendé avant que le sacrifice, le Yasna proprement dit, commence. C'est clair. Ici, il est vraiment, dans cette strophe gathique, il n'est pas question de cette transsubstantiation du feu. Elle a probablement déjà été faite si elle a lieu dans le système des gathas. Mais en tout cas, le feu est celui qui va recevoir une partie de l'offrande carnée. Et nous avons vu il y a 2 ans ensemble, si vous vous en souvenez, que le temps de combustion de la faible partie de chair que l'on met dans le feu va durer jusqu'à la récitation du Yasna 58. C'est-à-dire qu'on aura eu le temps de réciter l'Yasna Haptankaiti, toutes les gathas, y compris une seconde récitation du Yasna Haptankaiti, plus quelques conclusions en langue avestique récente. Et au Yasna 58, la combustion est achevée, le processus est achevé, le feu est rendu à sa condition banale et le sacrifice bientôt finira. Hein. C'est la phase ultime, comme nous l'avons vu, et ce n'est pas un hasard. Si le Yasna 58 fait référence dans ses citations, dans ses adaptations, à 2 passages de l'Avesta ancien exclusivement, c'est le Yasna 34, le nôtre. Pourquoi il le voit dans le Yasna 34, le début du processus qui mène jusqu'à ce qui se passe lors de sa propre récitation, et aussi le Yasna 36, pas, le moment où la chair est déposée dans le feu. Alors, vous voyez, lorsque Antonio Panaino parle de sacrifice intériorisé, de récitation statique pour favoriser la méditation des textes, oui, il y a bel et bien une récitation statique entre le Yasna 34, jadis comme aujourd'hui, parce que le terme l'implique. On va d'ailleurs voir que les gathas elles-mêmes l'impliquent. Mais la récitation statique, c'est la durée de combustion de la chair. Il ne se passe rien, il n'y a aucune manipulation tant que la fumée, n'est-ce pas, n'a pas disparu, hein, avec l'âme de la victime pour gagner le monde des dieux. Hein. C'est donc ici que se produit cela. Alors, c'est le moment, puisque le feu revient à sa condition primitive, de feu banal, de feu qui n'est plus l'agent de la combustion de l'offrande, mais qui devient le simple feu domestique autour duquel on peut se réunir, que l'on active la nuit pour des raisons de sécurité, eh bien, on va lui demander, bah, justement, la sécurité l'implique, la protection. Et on trouvera Trayo Idiai au milieu de la strophe 5, et on trouvera un Trasdoum, protégez-nous, à la fin de la strophe 7. Mais revenons à ce qu'il nous reste à découvrir. Revenons à ce qu'il nous reste à découvrir dans le processus qui a lieu ici, la strophe 6. Voilà l'une des 2 attestations positives du verbe yaz, sacrifier, hein, dans le dernier vers, yazem nas cha, et urvaidians stavas ayeni paiti. Donc le je parle. À nouveau, il dit, je vais venir devant vous, il parle au Dieu, en vous sacrifiant, Yazamnascha, et en vous louant, Stavas, et en vous louant, sacrifice et éloge, et alors Urvaidya, droit, droit. Je crois que c'est là que se déguise un peu, n'est-ce pas, sous le terme de la station verticale, l'idée d'une attitude statique des officiants. S'il est vrai que c'est ancien, c'est peut-être encore plus ancien qu'on peut le croire. Aujourd'hui, la récitation statique a toujours lieu lors d'un yasna, jusqu'au yasna 58, mais il est très probable que dans la récitation de l'Avesta récent, à l'époque de l'Avesta récent, c'était déjà le cas, et il semble que la phase sacrificielle comportait une récitation statique à l'époque des Gathas elles-mêmes, et c'est Urvaidya, hein, plus droit, littéralement, plus vertical, qui semble l'impliquer. Alors, il nous reste un certain nombre de strophes, je dirais, creuses, pas, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de terme rituel, en tout cas décelable. Décelable selon notre connaissance de la langue. Il n'y a rien dans la strophe 8. La strophe 9, 10 et 11. Les strophes 8 et 9 non plus. Les strophes 9 et 10, pardon, ne comportent, semble-t-il, pas de terme rituel. Mais comme dans la strophe 11, on voit... qu'elles mentionnent toutes, je ne sais pas comment interpréter ce fait, ça n'a pas encore été le cas jusqu'ici, l'entité féminine la plus importante, l'entité active Armaïti, dont le nom revient dans chaque strophe. Toutefois, vous verrez dans la strophe 11, apparition du mot Quarta. Donc, tout cela au Mazda, c'est pour ta nourriture. C'est une reprise sous une autre forme de Miasda, hein, du Miasda que nous avions découvert dans la strophe 3. On va voir réapparaître, selon le principe d'une construction, peut-être en miroir, hein, certains éléments qui étaient déjà apparus. Ici, le Miasda, l'offrande solide, et la ration Drauna apparaît sous la forme de la nourriture. Strophe 12 mentionne l'éloge, Stuto, mentionne à nouveau le yasna, yasnaria. Et puis, c'est pour cela que je vous avais tout de même commenté la strophe 5. On voit réapparaître le chemin. On voit réapparaître le chemin. C'est le dernier vers. Le dernier vers. Enseigne-nous, selon Asha, les sentiers faciles à aller de la bonne pensée. L'idée du chemin rituel refait son apparition. Or, ce chemin-là, nous reprend la strophe 13, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un chemin sur lequel certaines choses cheminent, et on nous dit aussi vers quoi elles cheminent. Sur ce chemin-là, qui chemine ? Eh bien, ce sont les Daina Saoxiantam. Daina Saoxiantam, début du deuxième vers. Et le verbe cheminer est vrakshat. Vrakshat, dernier mot du deuxième vers. Donc, les Daina, connaissons bien le mot. Desaushyant, nous connaissons le mot aussi. Chemine. Elle chemine sur ce chemin-là. Et elle chemine vers quoi ? Eh bien, nous le trouverons dans le dernier vers, hein, cadré en jaune, vers le Mijda, que nous avons commenté beaucoup il y a deux ans, hein, le Mijda, c'est le prix de victoire. Il y a un prix à gagner au bout du chemin. La progression le long de ce chemin, c'est une course qu'il faut gagner, car l'on gagne alors le prix de victoire, le Mijda, l'Indien Mila. Les Grecs en ont fait Mistos. Le salaire, et en allemand d'aujourd'hui ça existe encore, c'est le loyer, die Miete, hein, c'est ce terme, mais ici dans nos textes c'est un terme à double sens dans le contexte rituel. On gagne le prix de victoire, on gagne la course rituelle, c'est la réussite du sacrifice. Mais après, l'officiant qui a gagné ce prix présentera la note au commanditaire et il attendra son mistos. comme les Grecs, son salaire sacrificiel. Un texte gathique ultérieur montre très bien qu'il y a cette réversibilité. Hein. Maintenant que nous avons gagné le prix de victoire, il faut que nous ayons aussi notre récompense. Et ce Mijda, son caractère est défini dans la strophe 14, il est Vairim, c'est celui qu'il faut choisir. N'oubliez pas le caractère rituel de l'acte du choix. Hein. Caractère rituel de l'acte du choix. Et cette, ce prix de victoire qu'il faut choisir, il est donné Asdvaite Ushtanai, à la mobilité du corps, mobilité osseuse. C'est une variante de la mobilité du corps. Et nous retrouvons l'Ushtana de Zarathoustra, hein, l'Ushtana du corps de Zarathoustra. La mobilité du corps donnée aux dieux reçoit finalement le prix de victoire, le prix de victoire qu'il faut choisir. Et comme toutes les trois gathas à plusieurs chapitres, plurihatiques si je puis dire, notre gatha va se terminer, c'est sa toute dernière strophe, par la même demande où malheureusement il y a un mot inidentifiable, si bien que nous ne comprenons pas à 100%. Ce mot c'est vasna. Je ne sais pas ce que veut dire vasna. Il n'y a aucun. Mais en tout cas, la demande est toujours la même. C'est la demande finale, celle de tous les derniers vers de toutes les des trois gathas plurihatiques, c'est qu'il faut rendre, il faut donner une certaine qualité à l'ahou. C'est l'état d'existence, l'ahou. Eh bien, il faut le rendre fracha. Je dirais parfait, parfait. Je propose ça, parfait, pour ne pas compliquer les choses. Mais c'est une forme de vigueur, n'est-ce pas ? Des animaux en bonne santé, ça définit vraiment l'exubérance de la santé d'un animal. Il y a des chevaux, ils sont frachats, ce sont des chevaux en plein de vigueur. Ou bien, et aussi haïtia, haïtia. C'est un dérivé du participe présent. Il est tentant de traduire, d'après le sanskrit satya, c'est le même mot, par véritable, véridique, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le sens, car c'est un dérivé du participe présent du verbe être qui indique la permanence de l'existence pour les divinités. Alors le mot veut peut-être dire éternel, rendre l'état d'existence plein de santé, fracha, et éternel. Voici le texte. Voilà. Il est difficile, quand on observe ce phénomène de condensation du vocabulaire rituel dans deux gathas sur trois, hein, de ne pas déceler dans les gathas, n'est-ce pas, ceci invite évidemment à considérer les gathas comme des textes liturgiques elles-mêmes, n'est-ce pas, mais qui obéissent à certaines règles. Il y a un certain nombre de règles, n'est-ce pas, dans les gathas, qui font que le vocabulaire rituel, pour diverses raisons, n'apparaît que dans la phase finale du rite. Dans les gathas courtes, qui ne possèdent qu'un chapitre, eh bien, si elles ne possèdent qu'un chapitre, le vocabulaire rituel s'éclaircit. Les choses vont très vite. Hein. Les choses vont très vite, et le vocabulaire rituel est très vite présent. Mais les gathas, d'une certaine longueur, procèdent autrement. Alors nous sommes maintenant en mesure de restituer un processus qui se reproduit dans chaque gatha. Nous avons identifié, en tout cas, une ossature de trois moments liturgiques. Le premier, c'est nécessairement un discours qui est tenu sur le Mainyu, donc sur l'esprit, sur le Mainyu. Et d'ailleurs, c'est peut-être un terme qui désigne d'ailleurs lui-même le genre liturgique lui-même, le genre rhétorique, enfin discours sur le Mainyu, peut-être. Bien, le Mainyu, nous le trouvons dans le Yasna 30, pour la première gatha, Pour la seconde gatha, nous le trouvons dans la première, dans le premier chapitre, la première haïti, yasna 43, et dans le yasna 47, première haïti de la troisième gatha. C'est le facteur initial. Le second moment, c'est la frassa, l'interrogatoire, l'entretien avec la divinité, frassa. Il suit, c'est le yasna 31. Le yasna 44, et ici, c'est relativement bref, c'est le yasna 48 à la fin. À la fin. Alors, il y a ce que j'appellerais la phase sacrificielle, l'endroit où nous trouvons la forte concentration de vocabulaire rituel. N'est-ce pas ? Dans ce que nous venons de voir, début à l'intérieur de la Haïti 33 et occupe toute la Haïti 34. Alors, curieusement, je vais le mettre dans la deuxième gatha dont nous n'avons pas parlé. Le déploiement du vocabulaire rituel, c'est l'Yasna 45. C'est l'Yasna 45. Ce n'est pas la dernière Haïti, mais je vais y venir. Alors, pour la troisième gatha, début en Yasna 49 et occupation massive dans la dernière Haïti, la 50. Alors, nous voyons bien que ce qui caractérise la Hunavaïti, qui est la plus longue gatha, c'est que c'est un texte qui est gonflé par deux phases liturgiques supplémentaires et par une digression. La toute première Haïti, le Yasna 28, est un yana, c'est-à-dire une demande adressée aux divinités. La gatha Ahunavaïti est la seule gatha, le mot est un apax pour tout le corpus gathique, c'est la seule gatha qui procède à un yana, c'est sa particularité. Et elle commence par là, par un yana. Mais elle est seule, nous ne pouvons rien lui rapporter. Il y a un yana. Le yasna 50, 29, le deuxième haïti, c'est une digression littéraire. C'est le fameux texte de la plainte de l'âme de la vache. Yasna 29, un hymne dialogué, une digression littéraire. On ne trouve rien de semblable dans les autres gathas. Et enfin, une particularité, c'est le yasna 32. La gatha sera alors complète, ce qui est, comme je vous le disais la dernière fois, un apayasna, c'est-à-dire une déprécation des daivas. Oh, dans chaque gatha, les daivas sont condamnés, on leur jette une insulte, mais il n'y a pas de véritable rite de déprécation durable. La gatha Hunavaïti est la seule à procéder à ce genre. Alors, maintenant que nous avons établi cela, il nous reste quelque chose à régler. C'est la seconde gatha. Eh bien, on voit que ce qui change d'une gatha à l'autre, c'est le moment où l'on fait l'énumération des noms propres, où l'on présente un groupe humain. N'est-ce pas ? Eh bien, cette présentation des groupes humains, je vais l'appeler le « ya », comme je l'ai fait dans les textes vieilles avestiques, mais c'est un terme dont il faudra faire la critique. L'interpellation des hommes, le « ya », eh bien, il est mobile. Il est mobile. Sa place varie d'une gatha à l'autre. Dans la première gatha, le « ya » est intégré au « yana ». Donc, il figure dans la toute première haïti. Initial. Le ya est initial. Dans la seconde gatha, c'est la dernière haïti, le yasna 46. Voilà pourquoi la phase sacrificielle n'est pas la dernière. C'est le ya qui occupe la position finale dans le yasna 46. Et dans la troisième gatha, le ya est médian. C'est le début du yasna 49. Il introduit alors de manière immédiate, la phase sacrificielle. Alors, je ne sais pas, mais il me semble que nous avons pu discerner qu'il existait dans les gathas une théorie du sacrifice, une théorie savante, compliquée, des opérations rituelles. Je crois que nous devons véritablement faire la critique radicale et ne plus en parler de l'hypothèse de sermon ou d'hymnes séparés. Ce sont des textes qui se développent pendant un certain nombre de vers. Il y a 100 strophes, peut-être 101, dans l'Agatha Vunavaiti. C'est un long rituel déjà. Les hymnes védiques ne sont pas si longs en général. Et cette longueur est déjà le signe qu'on a affaire à autre chose qu'une chanson. Ce n'est pas une élogie brève de la divinité où l'on ne procède à aucun acte. Mais nous avons affaire à un processus, à un cursus rituel tout entier. Et je vais terminer par là, je m'aperçois qu'il est l'heure, nous reprendrons ici. C'est que le but de ce rite, il se trouve à la fin du Yasna 34. C'est évidemment ce rite, c'est métaphoriquement, c'est, et peut-être réellement, ça il faudra en discuter, ça consiste à suivre un chemin. Pas le suivre en chemin, mais c'est aussi une course qui permet de gagner quelque chose. Et ce qu'on va gagner au bout de cette course, c'est l'immortalité. L'immortalité qui est réversible. On en fait la part des dieux. Ce qu'on lui offre, c'est pour assurer leur immortalité, raison pour laquelle les verbes « da » figurent au moyen. Tu t'empares de l'immortalité, toi, Mazda, avec notre Drauna, etc. Mais aussi, tu vas nous donner l'immortalité, ce qui est le Mijda final, le Mijda que nous avons choisi. Donc, le rituel est introuvable. L'eschatologie, je vous l'ai dit, elle aussi introuvable, mais elle est là. Le problème du rituel est indissociable du problème de l'eschatologie parce que l'eschatologie est la finalité du rituel. Il y a autre chose, bien sûr, que cela, encore dans les gathas, mais nous procéderons après quelques petites remarques encore sur le ritualisme vieil avestique. Nous procéderons aussi à une vérification qui ne prendra pas la même forme, évidemment. Un des éléments eschatologiques que l'on peut trouver dans les gathas. Je vous remercie de votre attention.